Parfois, les choses disparaissent avec le temps. Parfois, elles se renforcent. L'âge du capitalisme de surveillance est le fruit de près de 10 années de réflexion, de recherche et d'écriture, auxquelles il faut ajouter les nombreux mois du processus de publication. L'ouvrage a été publié en Allemagne en septembre 2018, puis aux États-Unis en janvier 2019. 24 mois plus tard, le capitalisme de surveillance est toujours en marche, plus féroce et plus impitoyable que jamais. Loin de disparaître au milieu des actualités de l'an passé, ces pages ont encore gagné en intensité. La situation est urgente. Pendant 14 mois de pérégrination, de la publication du livre à la pandémie, j'ai discuté avec des lecteurs de tous les âges, en Europe et aux États-Unis. Deux phénomènes m'ont surprise. Premièrement, ces auditoires étaient de plus en plus nombreux et semblaient de plus en plus habités par le besoin d'agir. Deuxièmement, à chacune de ces présentations, j'ai demandé aux lecteurs de m'indiquer quels mots incarnaient au mieux leur inquiétude. Les réponses ont été pratiquement identiques dans quelques pays, quelques villes où elles soient énoncées. Liberté, contrôle, démocratie, responsabilité, autonomie, pouvoir, inquiétude, respect de la vie privée, résistance, colère, rébellion, droit, méfiance, inégalité, manipulation, loi, justice. Ces termes décrivent la pression d'un nouveau type de pouvoir qui, pesant sur le cours de notre vie quotidienne, surveille, suit, cible, analyse, définit, manipule et contrôle des individus, des groupes, des populations. Mais quelle est l'origine de ce pouvoir ? Est-ce nécessairement sous sa botte qu'on doive vivre l'ère du numérique ? Ou n'est-ce qu'une sinistre dérive des pratiques d'une poignée d'entreprises ? Comme je le démontre dans ces pages, la véritable origine de ce pouvoir et de son poids est le capitalisme de surveillance. Une nouvelle forme de marché qui revendique l'expérience humaine privée comme matière première, dont elle se sert dans des opérations secrètes d'extraction, de production et de vente. L'économie de la surveillance est devenue l'expression dominante du capitalisme dans l'ère numérique. Elle a pris racine et a prospéré dans les 20 premières années du siècle numérique, sans opposition réelle de la part de la loi et des institutions démocratiques. L'économie de la surveillance telle que je la décris dans les premiers chapitres de cet ouvrage entraîne de nombreuses perturbations que l'on retrouve régulièrement en une des journaux sans en saisir nécessairement la source ni la logique. Le pouvoir des géants de la technologie, pouvoir dont ils n'ont à répondre devant personne, et leur destruction du sanctuaire humain. La captation illicite de l'expérience humaine qui leur permet d'effectuer des opérations de micro-ciblage, de manipulation des comportements et de contrôle social. Leur écosystème d'applis et d'entreprises spécialisées dans les services de surveillance. Leur mainmise sur le monde du numérique. La manière dont ils possèdent et gèrent non seulement Internet, mais aussi les principales infrastructures de l'information et de la communication, si essentielles à l'exercice de toute fonction sociétale. Le coût des gens commis par eux, qui leur permet de défier les institutions démocratiques et, à terme, de les remplacer par une gouvernance informatique visant au profit. Le fléau empoisonné de la désinformation lucrative, les extrêmes concentrations de savoir, de richesses et de pouvoir qui produisent des inégalités sociales de natures inédites. Un vide politique que devraient combler de nouveaux droits humains, de nouvelles lois. La collusion entre le gouvernement américain et les entreprises technologiques qui protègent et nourrissent le pouvoir privé de ces dernières. mettant en danger toutes les démocraties libérales et diminuant les droits démocratiques de tous les citoyens. Le capitalisme de surveillance a été inventé en 2001. C'est aussi l'année durant laquelle la guerre contre la terreur, déclarée par les États-Unis, et l'obsession de l'information totale, qui en a découlé, se sont emparés de l'imaginaire du gouvernement américain et, d'une certaine manière, de presque toutes les démocraties du monde. Aux États-Unis, la doctrine non écrite de ce que j'appelle l'exceptionnalisme de la surveillance a permis à des entreprises du net, alors balbutiantes, de développer leur capacité à la surveillance, à la captation de données et à l'analyse sans en être empêchées par quelques lois, quelques règlements ou quelques principes constitutionnels que ce soit. Une dizaine d'années plus tard, elles pouvaient proclamer « mission accomplie ». En 2013, le directeur du renseignement de la CIA livrait cet aveu stupéfiant. Nous sommes quasiment en mesure d'informatiser toutes les informations générées par les êtres humains. La caractéristique principale de la mission technologique de la CIA, expliquait-il, était de profiter des flots massifs d'informations qui étaient apparus sur la planète. Ces flots n'étaient autres que les chaînes d'approvisionnement du capitalisme de surveillance, transportant l'information générée par les êtres humains par des mécanismes cachés d'extraction et de dataification mis au point par les entreprises vers des opérations exclusives et secrètes d'analyse et de vente. Le directeur du renseignement n'a aucun scrupule à reconnaître la dette de la CIA envers ces pratiques sans précédent. Google, qui fournit des masses de choses. Facebook, 35% de la production mondiale de photographies numériques. YouTube, le seul stock du monde qui atteigne et dépasse l'exaoctet. Twitter, 4500 tweets par seconde. Et les entreprises de télécommunications, tous ces SMS, tous ces coups de fil sur les portables. Vous êtes déjà une plateforme ambulante de capteurs, déclarait le directeur du renseignement de la CIA à ses auditeurs. 3 mois plus tard, Edward Snowden apparaissait sur la scène mondiale et mettait en lumière le rôle fondamental des entreprises technologiques en la matière. Ce sont elles qui secrètent ces nouveaux et immenses continents de données personnelles. En octobre 2013, Michael Hayden, ancien directeur de la NSA et de la CIA, méditait sur l'après 11 septembre. La CIA, remarquait-il, pourrait à juste titre être accusée d'avoir militarisé Internet. Le gouvernement américain n'est pas le seul à avoir bénéficié de la production de données personnelles par les entreprises technologiques en dehors de tout respect de la Constitution. Une vaste étude universitaire portant sur l'accès systématique des gouvernements aux données produites par le secteur privé dans 13 pays, y compris les démocraties que sont la France, l'Allemagne, Israël, l'Italie, le Brésil, le Canada, les États-Unis, l'Australie, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, relève une agrégation croissante des données personnelles aux mains des entreprises privées et conclut que tous les gouvernements concernés par l'étude pratiquent la collecte de masse, qui est une accumulation de données sans suspicion ciblée. Ces deux phénomènes ont leur origine dans le capitalisme de surveillance. Pendant les 20 premières années du siècle numérique, période essentielle, et tandis que le capitalisme de surveillance pouvait s'enraciner et prospérer en Occident, la Chine a affiné sa vision spécifique de l'avenir numérique. L'État autoritaire chinois a imaginé, développé et appliqué avec pugnacité une approche des technologies numériques qui promeut sa propre forme de gouvernement autoritaire à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. La réponse chinoise à la pandémie de Covid-19, dans son hyper-technologie, a juste ajouté un chapitre à un programme de longue haleine, techno-autoritaire s'il en est, et en contradiction fondamentale avec les valeurs et les aspirations des démocraties libérales. La politique intérieure et extérieure de la Chine allie systèmes de surveillance et intelligence artificielle pour imposer une gouvernance informatique, outil de la consolidation du savoir sans faille de l'État et de son contrôle absolu sur les citoyens et la société. Pendant que la Chine élaborait sa feuille de route vers un avenir numérique et autoritaire, les démocraties libérales n'ont pas su construire leur propre vision cohérente d'un futur technologique qui promeuve les formes démocratiques du gouvernement. Cet échec à structurer des perspectives pour notre siècle numérique reflète nos 20 dernières années de peur et d'ambivalence. Les démocraties occidentales, en effet, n'ont su choisir entre les charmes de la certitude et du contrôle, d'une part, et d'autre part les principes de la souveraineté individuelle, enracinés dans les droits, l'égalité, l'état de droit et la gouvernance démocratique.